Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal, suivi de commentaires. Et après, vous pouvez écouter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. La rubrique suivante, comme d'habitude, nous allons vous présenter le magazine culturel et ensuite l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Coopération entre l'Union européenne et l'ASEAN est considérée comme la région économique rapide. Commémoration de 40 ans d'amitié multilatérale entre l'Union européenne et l'ASEAN. Le Conseil de l'ONU a reconnu les progrès des droits de l'homme de l'Indonésie. Selon le maire de Bandung, M. Ridwan Kamil, Pencaksilat est le patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO. L'Indonésie considère Tianjin d'être important pour le commerce. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'Union européenne et le secrétariat de l'ASEAN ont organisé EU-ASEAN Run pour la première fois. C'est un événement annuel de l'Union européenne qui est organisé avec l'ASEAN pour célébrer trois événements historiques, à savoir 40e partenariat de l'Union européenne et l'ASEAN, 50 ans de la fondation de l'ASEAN et 60 ans du traité de Rome qui est précurseur de l'Union européenne. En marge de cette activité organisée le 7 mai à Jalan Sudirman et Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Patrick Herman, l'ambassadeur de Belgique en Indonésie, a dit à La Voix de l'Indonésie que l'un des thèmes liés aux relations entre l'Union européenne et l'ASEAN était le renforcement de la coopération entre les deux parties. Aujourd'hui, il y a des phénomènes politiques interne dans certains pays européens et cette question devient le principal moteur de l'Union européenne pour coopérer avec les partis externes.
Donc l'Union européenne doit faire plus pour faire entendre sa voix dans le monde, doit devenir un acteur plus important et l'ASEAN est un partenaire parfait. L'ASEAN est un partenaire qui continue à grandir et l'ASEAN maintenant, si le RCEP se réalise, sera aussi au cœur de la plus grande zone de libre-échange et de la plus grande aventure économique de tous les temps.
Pierre Herman souhaite que l'organisation de 40 ans de partenariat entre l'Union européenne et l'ASEAN puisse devenir le début de la coopération multilatérale, notamment dans le domaine économique, parce que l'ASEAN est composé des pays qui sont géographiquement situés dans la zone potentielle et dynamique. Le 7 mai 2017, sur la route Sudirman et Sisingamangaraja, Jakarta, depuis 6h du matin, environ 2000 personnes, telles que les Indonésiens et les étrangères, ont participé à l'événement EU-ASEAN Run. C'était une course matinale qui a commencé à partir du bureau de l'Union européenne et l'arrivée au secrétariat de l'ASEAN. À la ligne d'arrivée, les participants ont rejoint dans une variété de spectacles culturels intéressants et des jeux amusants. Dans cette activité, il y avait aussi les stands qui fournissent de la nourriture spéciale des pays de l'Union européenne, tels que la Belgique, la Bulgarie, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Suède, y compris 10 pays de l'ASEAN. L'ambassadeur de l'Union européenne à l'Indonésie et le Brunei Darussalam, Vincent Jeron, qui a participé à cet événement, a déclaré que EU-ASEAN-RAN est une célébration d'amitié étroite entre les pays de l'Union européenne et l'ASEAN pendant des décennies et la célébration de la naissance de l'Union européenne et l'ASEAN. Masuk insert 5 tanggal 7, selebrasi 40 tahun persahabatan multilateral antara Uni Eropa dan ASEAN. Langsung diputar karena dalam bahasa Prancis. Selon Vincent, l'événement a eu lieu avec succès basé sur l'intérêt public et l'enthousiasme des organisateurs et il souhaite que cette activité puisse être organisée durablement. Le processus de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme de l'ONU examine le rapport de développement des droits de l'homme d'un pays, reconnaît les progrès des droits de l'homme en Indonésie. Le communiqué de presse du Bureau de représentation de l'Indonésie à Genève a déclaré que l'Indonésie appréciait des recommandations formulées par les pays de l'ONU qui sont valables et contiennent le soutien à l'ordre du jour national des droits de l'homme. C'est ce qu'a déclaré le représentant permanent de l'Indonésie à Genève, l'ambassadeur Hassan Kleb, dans la séance de la ratification du rapport du groupe de travail Universal Periodic Review de l'Indonésie au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'ambassadeur Hassan Kleb évalue que les diverses recommandations données par des pays membres de l'ONU sont une reconnaissance des progrès des droits de l'homme en Indonésie, tout en mettant l'accent sur le soutien de la communauté internationale aux efforts pour promouvoir et protéger les droits de l'homme qui continueront à mener par le gouvernement indonésien. Hassan Kleb a mentionné quelques politiques de l'égalité du bien-être en Indonésie devient l'attention de la communauté internationale comme la politique de développement dans les banlieues à travers le programme de carte santé de l'Indonésie, la carte intelligente de l'Indonésie et la carte de bien-être de la famille. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le maire de Bandung, M. Ridwan Kamil, est parti pour Paris, la France, samedi 6 mai 2017 pour soutenir la délégation indonésienne à la promotion des arts martiaux qui a été proposée comme patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Il est cru par le gouvernement central de négocier avec l'UNESCO pour que des arts martiaux deviennent le patrimoine mondial originaire de l'Indonésie et non plus revendiqué par d'autres pays. Après Paris, Ridwan Kamil continuera son voyage à Tokyo pour une visite de travail et participe aux divers ordres du jour. Selon le chef chargé de la coopération du secrétaire régional de Bandung, M. Dodit Ardian Pancapana, le départ de Ridwan Kamil vers Paris est un suivi de la visite de l'ambassadeur ou représentant permanent adjoint de la République d'Indonésie à l'UNESCO, Fauzi Sulaiman à Bandung au début de l'année dernière. Il a dit que Ridwan Kamil fera une présentation devant le jury de l'UNESCO sur les raisons des arts martiaux indonésiens doivent être désignés comme patrimoine mondial. Il a ajouté qu'en plus Ridwan Kamil, 25 délégations des arts martiaux de l'Indonésie de la communauté des arts martiaux ont également participé et affichent des arts martiaux devant 180 représentants de l'État. Le gouvernement indonésien considère d'être important la position de la ville de Tianjin pour le trafic du commerce des biens et les services avec la Chine. L'attaché commercial de l'ambassade d'Indonésie à Beijing, Dandi S. Iswara a déclaré dimanche Tianjin était la porte d'entrée des produits indonésiens avant d'entrer dans la région du nord de la Chine. La ville qui se trouve environ 114 km au sud-est de la capitale de la Chine, Pékin, possède un port qui peut accueillir des centaines de grands navires, y compris les navires de croisière. Dandi S. Iswara a expliqué les produits indonésiens qui entrent dans Tianjin. Donc, la plupart sont l'huile de palme, le charbon liquide, des produits chimiques, du caoutchouc, du papier et de la pâte, ainsi que la nourriture et les boissons. La ville Tianjin contribuait à 774,8 millions de dollars américains, soit environ 3,65% de la valeur totale des exportations de l'Indonésie vers la Chine ou au cours de 2016. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Dissolution de l'organisation de masse anti-Pancasila ». Le gouvernement indonésien est en train d'étudier l'existence de l'organisation de la société civile anti-Pancasila dans ce pays. Après la rencontre avec le vice-recteur des affaires étudiants des universités publiques et privées à Jabodetabek, Jakarta, jeudi, le ministre de Coordination des politiques juridiques et sécurité, M. Wiranto, a déclaré que le gouvernement voulait anticiper le développement idéologique qui peut changer potentiellement l'idéologie Pancasila et contre le gouvernement légitime. Le président Jokowi a donné l'instruction au ministre de Coordination chargé des affaires politiques juridiques et sécurité, M. Wiranto, pour explorer le cadre juridique de l'organisation anti-Pancasila avant sa dissolution et demande aux gens d'attendre des mesures gouvernementales. Le plan de la dissolution de l'organisation de masse anti-Pancasila est fait quand une organisation communautaire, Hizbut Tahrir Indonesia, ou HTI, le 23 avril, et prévoit de rendre l'activité intitulée « Leur Khilafah Obligation Shari » La Renaissance des gens à Balai Sudirman, Jakarta. Mais cette activité a été annulée en raison de ne pas obtenir la permission de la police. Hizbut Tahrir Indonesia est considéré va remplacer Pancasila avec Khilafah ou l'État islamique. Depuis le début de la création de l'État de l'Indonésie, les fondateurs ont convenu que l'Indonésie est un État unitaire et non pas un pays qui est basé sur une religion particulière. L'Indonésie est un pays avec diverses ethniques, religieuses, langues et coutumes. Cette diversité devient la caractéristique de l'Indonésie qui produit Bhinneka Tunggal Ika, la devise « l'unité dans la diversité indonésienne ». Bien que la majorité de la population indonésienne soit musulmane, ne signifie pas que l'Indonésie est un pays fondé sur l'islam, parce que la lutte pour l'indépendance menée par tous les Indonésiens et non pas seulement par un groupe ou une religion. Par ailleurs, l'Indonésie est un pays avec l'idéologie Pancasila. Toutes les organisations, y compris les organismes communautaires et les organismes politiques, devraient être basées sur cinq principes de Pancasila, tels que 1. La croyance en un Dieu unique. 2. Une humanité juste et civilisée. 3. L'unité de l'Indonésie. 4. Une démocratie guidée par la sagesse à travers la délibération et la représentation. Et 5. La justice sociale pour tout le peuple indonésien. Le plan pour dissoudre les organisations de la société anti-Pancasila est la bonne, parce que les organisations qui ne sont pas basées sur Pancasila signifient qu'elles veulent dissoudre le pays qui a été défendu par tout le peuple de l'Indonésie. Mais pour dissoudre, une organisation a besoin d'une étude approfondie. Si ces organisations ont vraiment violé la loi applicable, en outre, la dissolution de l'organisation de masse anti-Pancasila doit également passer par le processus judiciaire. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 8 mai 1993, la mort de Marcina, une activiste de travailleurs. Avant que le corps ait été retrouvé le 9 mai 1993 dans le village de Jugong, le district de Wilangan, Nganjuk, Java Est, Marcina est une employée de PT Catur Putra Surya. Avec d'autres travailleurs de cette entreprise, elle est active dans la manifestation réclamant un salaire décent. Jusqu'à 5 mai 1993, elle est encore active avec ses collègues dans les activités de protestation et négociation. Mais à partir du 6, 7 et 8 mai 1993, elle est disparue. Et le 9 mai 1973, elle a finalement retrouvé morte. Marcina est morte le 8 mai 1993 à l'âge de 24 ans. Selon le résultat de l'autopsie menée par des médecins à l'hôpital de Nganjuk, Java Est, Marcina est morte à cause de la persécution. Elle est comme activiste de travailleurs a reçu le prix Yap Tiam Hin Award en 1993. Le 8 mai 1998, l'événement de Gejayan. L'événement de Gejayan, également connu comme la tragédie de Yogyakarta, et affrontement survenu le 8 mai 1998 dans la région Gejayan, Yogyakarta, dans les manifestations réclamant une réforme et la chute du président Suharto. Les affrontements ont fait des centaines de personnes blessées et une personne nommée Moses Gatut Kaca est morte. Le 8 mai 1828, la naissance de André Dunant, désignée comme la Journée mondiale de la Croix-Rouge. André Dunant est né le 8 mai 1828 et mort le 30 octobre 1910 à l'âge de 82 ans. Il est l'homme d'affaires et activiste social suisse. Lors d'un voyage d'affaires en 1859, il a été témoin de la bataille de Solferino, un emplacement qui aujourd'hui fait partie de l'Italie. Les souvenirs et les expériences ont été écrits dans un livre intitulé « Un souvenir de Solferino » qui a inspiré la formation du Comité international de la Croix-Rouge en 1863. Pour honorer le service d'André Dunant dans le domaine humanitaire, le 8 mai est déterminé comme la Journée mondiale de la Croix-Rouge. C'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous, voici la mise au point de la Voix d'Indonésie, le service international de RRI, ayant pour thème KPU détermine Anies Uno en tant que gagnant des élections régionales de Jakarta 2017. Jakarta a tenu des élections de gouverneur et de vice-gouverneur pour la période 2017-2022, le 19 avril 2017. Plus de deux semaines, les résidents de Jakarta en particulier et l'Indonésie en général ont dû attendre le résultat officiel du deuxième tour des élections régionales. Le 5 mai 2017, la Commission électorale générale de Jakarta, KPU, a finalement annoncé la candidature du gouverneur et vice-gouverneur de Jakarta. Anies Baswedan, Sandiaga Uno, en tant que vainqueur de l'élection principale régionale de Jakarta 2017. L'élection de Jakarta a été menée en deux tours. Après le premier tour, les deux pairs n'avaient pas réussi à obtenir le soutien de 50% plus un requis dans la loi électorale. La détermination a eu lieu lors d'une séance plénière ouverte du gouverneur et vice-gouverneur élu de Jakarta pour la période 2017-2022 au bureau de KPU à Jakarta Central, vendredi le 5 mai 2017. Auparavant, KPU de Jakarta a fini les résultats de l'élection régionale de Jakarta en 2017, le 29 avril 2017. Le chef de KPU Jakarta, Sumarno, a déclaré que la détermination du gouverneur et du vice-gouverneur élu est par le décret de KPU Jakarta numéro 95-2017. Après que le KPU ait la certitude de la Cour constitutionnelle, si personne ne se plaint du résultat et du processus d'élection du chef régional de Jakarta. Sumarno expliquait qu'en vertu de la loi, la paire candidate qui a obtenu le plus de voix est nommée gouverneur élu et vice-gouverneur. Après le processus de détermination, Sumarno a également déclaré qu'après tout le processus des élections régionales de Jakarta a pris fin. En outre, le KPU enverra une lettre au Parlement régional de Jakarta, DPRD, pour traiter l'approbation et l'inauguration du gouverneur et vice-gouverneur élu de Jakarta pour la période 2017-2022. Sumarno a également exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès des élections de Jakarta et le processus de mise en œuvre avec toutes les dynamiques au cours des étapes. Sumarno veut que Anies Sandi puisse mener une nouvelle ère dans son leadership plus tard. La mission et la vision d'Anies Sandi soient capables d'offrir la nouvelle ère de leur leadership. Leur mission et vision est de faire progresser la capitale de l'Indonésie. Sumarno est également reconnaissant pour la mise en œuvre des élections de Jakarta qui ont eu lieu de manière pacifique et démocratique. Jusqu'à ce que le vote compte, aucune objection du résultat et du processus d'élection. Pendant son discours lors de l'événement Le Message d'Unité à Jakarta vendredi le 5 mai, le gouverneur élu de Jakarta, Anies Baswedan, a déclaré que le mandat conféré par les résidents de Jakarta serait le mandat qui sera responsable au monde et le si après. Il invite tous les résidents de Jakarta à coopérer en tant que frères dans une grande maison, Jakarta. Jusqu'à maintenant, Jakarta est devenue une colonne vertébrale de la civilisation humaine depuis longtemps. Anies a déclaré que sa victoire avec Sandiaga en tant que gouverneur et vice-gouverneur pour la période 2017-2022 est la victoire des résidents de Jakarta qui veulent des changements concrets, bien qu'il n'y ait pas de contrat politique avec les partis politiques de soutien pour participer ou non à l'élection présidentielle de 2019. Anies Baswedan et Sandiaga Uno se sont engagés à mener bien le mandat des résidents de Jakarta qui veulent de meilleurs changements de Jakarta et qui souhaitent être heureux pour ces résidents. Anies Rashid Baswedan a ajouté qu'il formerait bientôt une équipe de synchronisation de programmes. Il a expliqué que les principaux programmes de l'équipe de synchronisation sont la fourniture d'emplois, l'éducation de qualité jusqu'à l'achèvement, les besoins fondamentaux abordables, le service de santé, les établissements abordables et la gestion des déchets. Pendant ce temps, le vice-président du Parlement, Fadli Zon, est convaincu que le gouverneur et vice-gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan et Sandiaga Uno, s'acquitteront de leurs fonctions pour les 5 prochaines années. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
L'Union européenne et le secrétariat de l'ASEAN ont organisé EU-ASEAN Run pour la première fois. C'est une événement annuel de l'Union européenne qui est organisé avec l'ASEAN pour célébrer trois événements historiques, à savoir 40e partenariat de l'Union européenne et l'ASEAN, 50 ans de la fondation de l'ASEAN et 60 ans du traité de Rome qui est précurseur de l'Union européenne. En marge de cette activité organisée le 7 mai à Jalan Sudirman et Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Patrick Herman, l'ambassadeur de Belgique en Indonésie, a dit à la Voix de l'Indonésie que l'un des thèmes liés aux relations entre l'Union européenne et l'ASEAN était le renforcement de la coopération entre les deux parties. Aujourd'hui, il y a des phénomènes politiques internes dans certains pays européens. Et cette question devient le principal moteur de l'Union européenne pour coopérer avec les parties externes.
Donc l'Union européenne doit faire plus pour faire entendre sa voix dans le monde, doit devenir un acteur plus important et l'ASEAN est un partenaire parfait. L'ASEAN est un partenaire qui continue à grandir et l'ASEAN maintenant, si le RCEP se réalise, sera aussi au cœur de la plus grande zone de libre-échange et de la plus grande aventure économique de tous les temps.
Pierre Herman souhaite que l'organisation de 40 ans de partenariat entre l'Union européenne et l'ASEAN puisse devenir le début de la coopération multilatérale, notamment dans le domaine économique, parce que l'ASEAN est composé des pays qui sont géographiquement situés dans la zone potentielle et dynamique. Le 7 mai 2017, sur la route Sudirman et Sisingamangaraja, Jakarta, depuis 6 heures du matin, environ 2000 personnes, telles que les Indonésiens et les étrangères, ont participé à l'événement EU-ASEAN Run. C'était une course matinale qui a commencé à partir du bureau de l'Union européenne et l'arrivée au secrétariat de l'ASEAN. À la ligne d'arrivée, les participants ont rejoint dans une variété de spectacles culturels intéressants et des jeux amusants. Dans cette activité, il y avait aussi les stands qui fournissent de la nourriture spéciale des pays de l'Union européenne, tels que la Belgique, la Bulgarie, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Suède, y compris 10 pays de l'ASEAN. L'ambassadeur de l'Union européenne à l'Indonésie et le Brunei Darussalam, Vincent Jeron, qui a participé à cet événement, a déclaré que EU-ASEAN Run est une célébration d'amitié étroite entre les pays de l'Union européenne et l'ASEAN pendant des décennies et la célébration de la naissance de l'Union européenne et l'ASEAN. Masuk Insert 5 tanggal 7, selebrasi 40 tahun persahabatan multilateral antara Uni Eropa dan ASEAN. Langsung diputar karena dalam bahasa Prancis. Selon Vincent, l'événement a eu lieu avec succès basé sur l'intérêt public et l'enthousiasme des organisateurs et il souhaite que cette activité puisse être organisée durablement. Le processus de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme de l'ONU examine le rapport de développement des droits de l'homme d'un pays, reconnaît les progrès des droits de l'homme en Indonésie. Le communiqué de presse du Bureau de représentation de l'Indonésie à Genève a déclaré que l'Indonésie appréciait des recommandations formulées par les pays de l'ONU qui sont valables et contiennent le soutien à l'ordre du jour national des droits de l'homme. C'est ce qu'a déclaré le représentant permanent de l'Indonésie à Genève, l'ambassadeur Hassan Kleb, dans la séance de la ratification du rapport du groupe de travail Universal Periodic Review de l'Indonésie au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'ambassadeur Hassan Kleb évalue que les diverses recommandations données par des pays membres de l'ONU sont une reconnaissance des progrès des droits de l'homme en Indonésie, tout en mettant l'accent sur le soutien de la communauté internationale aux efforts pour promouvoir et protéger les droits de l'homme qui continueront à mener par le gouvernement indonésien. Hassan Kleb a mentionné quelques politiques de l'égalité du bien-être en Indonésie devient l'attention de la communauté internationale comme la politique de développement dans les banlieues à travers le programme de carte santé de l'Indonésie, la carte intelligente de l'Indonésie et la carte de bien-être de la famille. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le maire de Bandung, M. Ridwan Kamil, est parti pour Paris, la France, samedi 6 mai 2017 pour soutenir la délégation indonésienne à la promotion des arts martiaux qui a été proposée comme patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Il est cru par le gouvernement central de négocier avec l'UNESCO pour que des arts martiaux deviennent le patrimoine mondial originaire de l'Indonésie et non plus revendiqué par d'autres pays. Après Paris, Ridwan Kamil continuera son voyage à Tokyo pour une visite de travail et participe aux divers ordres du jour. Selon le chef chargé de la coopération du secrétaire régional de Bandung, M. Dodit Ardian Panchapana, le départ de Ridwan Kamil vers Paris est en suivi de la visite de l'ambassadeur ou représentant permanent adjoint de la République d'Indonésie à l'UNESCO, Fauzi Sulaiman à Bandung au début de l'année dernière. Il a dit que Ridwan Kamil fera une présentation devant le jury de l'UNESCO sur les raisons des arts martiaux indonésiens doivent être désignés comme patrimoine mondial. Il a ajouté qu'en plus Ridwan Kamil, 25 délégations des arts martiaux de l'Indonésie de la communauté des arts martiaux ont également participé et affichent des arts martiaux devant 180 représentants de l'État. Le gouvernement indonésien considère d'être important la position de la ville de Tianjin pour le trafic du commerce des biens et les services avec la Chine. L'attaché commercial de l'ambassade d'Indonésie à Beijing, Dandi S. Iswara, a déclaré dimanche que Tianjin était la porte d'entrée des produits indonésiens avant d'entrer dans la région du nord de la Chine. La ville, qui se trouve environ 114 km au sud-est de la capitale de la Chine, Peking, possède un port qui peut accueillir des centaines de grands navires, y compris les navires de croisière. Dandi S. Iswara a expliqué les produits indonésiens qui entrent dans Tianjin. Donc, la plupart sont l'huile de palme, le charbon liquide, des produits chimiques, du caoutchouc, du papier et de la pâte, ainsi que la nourriture et les boissons. La ville Tianjin contribuait à 774,8 millions de dollars américains, soit environ 3,65% de la valeur totale des exportations de l'Indonésie vers la Chine ou au cours de 2016. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans le magazine culturel. Pour aujourd'hui, nous vous invitons à nous rendre à l'île de Noko. Alors, soyez toujours avec nous, la Voix de l'Indonésie, le service international de RRI. Outre parler d'un coup, vous pouvez écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Serulitor, Baoyan est une île située dans la mer de Java à environ 80 000 ou 120 km au nord de Gresik. Administrativement, l'île est inclue dans la résidence de Gresik en province de Java-Est. L'île de Bawean est entourée de nombreuses petites îles incroyables, comme l'île de Noko, l'île de Gili de l'Est, le cap de Frog et qui propose d'autres attractions touristiques. comme le lieu de reproduction du chef de Bawean, cette fois nous vous invitons à visiter l'île de Noko. C'est une petite île inhabitée avec le beau paysage sous-marin. Chers auditeurs, ce n'est pas facile pour profiter de la beauté naturelle éloignée. Vous devez d'abord voyager pendant 3 heures pour traverser la mer de Java jusqu'à l'île de Bawean à partir du port de Gresik. Gresik peut être atteint à partir de la ville de Surabaya, la capitale de la province de Java Est, qui prend environ 1 heure. Après être arrivé au port de Bawean, qui est situé dans le sous-district de Sangkapura, vous devez utiliser un bateau à moteur pendant 20 minutes pour atteindre l'île de Noko. Vous devez voyager de nouveau pendant environ 20 minutes pour atteindre la plage de Noko en utilisant le bateau rapide ou bateau à moteur appartenant à des pêcheurs locaux. Serviteurs, en fait, il n'y a presque rien sur l'île de Noko sinon des buissons et du sable blanc. Cette île est très petite, sa surface est de seulement 1 km carré. Mais quand vous serez sur cette île, vous serez surpris par sa beauté naturelle. La mer a une eau très claire de couleur bleue et verte, afin que vous puissiez voir le fond de mer. La beauté des récifs coralliens est clairement visible depuis le bateau. Ici, vous pouvez faire de la plongée en apnée pour profiter de la beauté sous-marine. Mais vous devez apporter votre propre équipement, car il n'y a pas de loueur d'équipement de plongée en apnée sur l'île de Noko. Serviteur, l'île de Noko est appropriée à la natation. Sur l'île, vous pouvez nager et bronzer autour de l'île qui est remplie de sable blanc. Si vous voulez pêcher, cette île est un lieu favori pour les touristes qui aiment à attraper des poissons. Il y a plusieurs choses que vous devez considérer si vous visitez l'île de Noko. Sur cette île, il n'y a pas de place pour vous mettre à l'abri, pas de restaurant et pas de source, donc pas d'eau. Donc, si vous voulez être là pour un temps assez long, il vous est conseillé d'apporter une tente, de la nourriture et des boissons pour être consommé. Et ce qui est important est de préserver l'environnement de l'île de Noko et de ne pas jeter vos ordures n'importe où. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « L'île de Noko ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme « Allez, apprendre l'indonésien ».
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique « Apprendre l'indonésien », un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous guide de parler indonésien. Le sujet pour aujourd'hui est merayakan ulang tahun ou en français célébrer l'anniversaire. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer 2 fois et vous pouvez répéter après moi. Ulang tahun. Ulang tahun. En français, anniversaire. Senin depan. Senin depan, en français, lundi prochain. Senang, senang, en français, être heureux ou être heureuse. Ingat, ingat, en français, rappeler. Rencana, rencana, en français, plan. Traktir, traktir, en français, offrir à manger. Makan, makan. En français, manger. Makanan barat, en français, cuisine occidentale. Pesan tempat, en français, réservation dans lieu. Restaurant, restaurant, en français, restaurant. Kalau tidak, kalau tidak, en français, sinon, tidak ada, tidak ada, rien. Tempat kosong, en français, endroit vide. Hadiah ou cadeau, hadiah ou cadeau, en français, cadeau. Tidak terlupakan, en français, inoubliable. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Merayakan ulang tahun ou en français, célébrer l'anniversaire. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. C'est une conversation entre Anna A et Yuli B à la cantine. A. Senin depan, kamu berulang tahun. Je répète. Senin depan, kamu berulang tahun. En français, vous célébrerez l'anniversaire lundi prochain. B. Ya, betul. Ya, betul. En français, oui, c'est vrai. B. Senangnya kamu ingat ulang tahun saya. Senangnya kamu ingat ulang tahun saya, en français. Je suis heureux que vous vous souveniez de mon anniversaire. A. Apa rencanamu? Apa rencanamu? En français, quel est ton plan? B. Saya masih belum punya rencana apapun. Saya masih belum punya rencana apapun. En français, je n'ai aucun plan. A. Kalau begitu, saya akan traktir kamu makan. Kalau begitu, saya akan traktir kamu makan. Donc, je vais vous offrir à manger. A. Kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? En français, que voulez-vous manger? B. Makan apa saja tidak masalah. Makan apa saja tidak masalah. En français, pas de problème. J'aime quelque chose à manger. B. Asalkan kamu yang traktir. Asalkan kamu yang traktir. En français, à condition que vous m'offrez à manger, n'est-ce pas? A. Kamu kan suka makanan barat. Je répète. Kamu kan suka makanan barat. En français, je sais que vous aimez la cuisine occidentale. A. Kalau begitu, saya akan pesan tempat dulu di restoran makanan barat. Je répète. Kalau begitu, saya akan pesan tempat dulu di restoran makanan barat. En français, je réserverai l'endroit au restaurant alimentaire occidental. A. Kalau tidak, nanti tidak ada tempat kosong pada waktu kamu ulang tahun. Kalau tidak, nanti tidak ada tempat kosong pada waktu kamu ulang tahun. En français, sinon, nous ne pouvons pas avoir l'endroit vide au moment de célébrer ton anniversaire. B. Terima kasih untuk hadiah yang tidak terlupakan di ulang tahun saya. Je répète. Terima kasih untuk hadiah yang tidak terlupakan di ulang tahun saya. En français, merci pour le cadeau inoubliable de mon anniversaire. Chers auditeurs, c'est Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. À demain.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis de la voix indonésienne dans quatre coins du monde, bonsoir. Voici le magazine musical pour l'édition lundi. Ce soir, on vous présente la musique de rythme kroncong, qui est d'origine du XIVe siècle lors de la présence de Portugal en Indonésie. Pour cette édition, on introduit des chanteurs de kroncong, Sundari Sukocho et M. Rivani. Comme notre début de rencontre, écoutez donc la chanson de Sundari Sukocho intitulée Sepenggal Kenangan. Bonne écoute.
Tinggal hanya sepenggal kenangan.
Chers amis, la mémoire du passé existe toujours dans notre vie. Le bon souvenir fait nous sourire, mais la mauvaise provoque la tristesse. Voilà l'histoire de Samson, intitulée Sepenggal Kenangan, chantée par Sundari Tsukocho. Comme d'habitude, le thème d'amour est toujours populaire pour l'homme dans la vie. Chers amis, la capacité de chanter au rythme crunchon de cette chanteuse n'est pas doutée. Pas étonnant si Sundari a été couronnée comme reine de crunchon de l'Indonésie. Elle aime la musique, surtout crunchon, lors de son père, Tsukocho Rono Diharjo, a introduit cette musique à sa petite fille Sundari. Puis, il chante ensemble avec sa fille. Sundari a passé ses études au deuxième cycle en 2010. Elle aime aussi l'éducation, donc maintenant elle est comme ambassadeur des illettrés. Voilà l'histoire de Sundari Tsukocho. Maintenant, on écoute ensemble l'autre chanson de rythme crunchon avec Emery Vani, intitulée Indonesia Pusaka. Bonne écoute. La chanson intitulée Indonesia Pusaka est une chanson nationale composée par Ismail Marzuki lors de la période de guerre d'indépendance. Cette chanson raconte la louange et l'amour du peuple de l'Indonésie à l'État. Dans cette chanson, Emery Vani a montré son talent de chanter Indonesia Pusaka est devenu plus forte dignité et touchée. Emri Vani, dans son carrière de musique, a déjà lancé son album de Kronchom. Bon, chers amis de quatre coins du monde, c'était le magazine de musique pour l'édition lundi avec le rythme de Kronchom. Mais avant de vous quitter, écoutez encore deux dernières chansons intitulées Cinta Abadi, chantées par Sundari Sukocho et Rindu Lukisan de Emri Vani. Merci de votre fidélité et attention. Au revoir.
C'était quelques chansons indonésiennes et ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.